sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Salut à tous, auditeurs et auditrices de Radio Primitive, ici c'est Lorraine pour votre émission Curiosity. Nous allons à la rencontre d'auteurs et autrices d'ouvrages, que ce soit en sociologie, philosophie, psychologie ou même tout type d'ouvrages. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer Solène Anglaret. Bonjour Solène.
Bonjour Lorraine.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nous ? Je précise qu'on se connaît déjà, donc je vais te tutoyer pendant cette interview. Qui es-tu ? Comment te présenterais-tu ?
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait hyper plaisir de faire cet entretien avec toi. Donc, moi, c'est Solène. À la base, je suis française. Je suis née à Paris. J'ai grandi en Normandie. J'ai fait mes études à Bordeaux. Il y a 15 ans, j'ai quitté la France et je me suis expatriée en Norvège, puis aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, en Australie. Après, je suis rentrée au Royaume-Uni et maintenant, je suis basée à Dubaï depuis un peu plus d'un an. Donc, j'aime bien voyager, j'aime bien vivre à l'étranger. J'ai fait une carrière d'une douzaine d'années dans différentes organisations à la fois privées et gouvernementales. Je fais plein de jobs différents. Dès que je m'ennuie, je change. Et en parallèle, j'ai commencé à me lancer un peu plus dans une carrière d'artiste, d'écrivaine. Donc, j'ai publié mon premier livre en 2018. Et depuis, j'ai continué à écrire, à tourner des films, à écrire des chansons, à peindre, etc. Voilà un petit peu sur moi.
Et donc, tu as écrit 4 livres en tout, dont un livre de coloriage et un livre pour enfants. Donc aujourd'hui, on va parler d'un de tes livres qui s'appelle « Where to next ». Qu'est-ce que ça veut dire « Where to next »
Where to next », c'est une question. Où est la prochaine étape ? Pour moi, c'est où est-ce que... Et c'est à la fois où est-ce qu'on va aller, par exemple, les prochaines vacances, mais ça peut être plus, pour moi, c'était dans le sens de cette recherche du chez-soi. Donc, où est-ce que va être le prochain endroit dans lequel je me sentirai chez moi.
Ok, et en parallèle, tu as écrit aussi un recueil, plusieurs recueils de poésie.
Oui, donc en fait, au total, j'ai écrit 5 livres. Enfin, j'en ai écrit 5. Plus, mais il y en a 5 qui ont été publiés. Donc, Where to Next, on vient d'en parler, c'est le récit autobiographique de voyage sur cette recherche de sens d'appartenance. Après, j'ai publié, comme tu l'as dit, mon livre pour enfants. Ça, c'était le deuxième, Where Are You From ? Sur cet aspect grandir en tant qu'enfant multiculturel et se poser des questions sur d'où on vient. Et avec cette réponse proposée de finalement, on est tous humains, on vient tous du monde. Ensuite, j'ai publié les 2 recueils de poésie auxquels tu viens de faire référence. Donc, Where en anglais et Penser d'ailleurs en français. Et c'est pas le même recueil. C'est pas une traduction l'un de l'autre. C'est 2 recueils différents. Celui en français, Penser d'ailleurs, en fait, c'est des poèmes que j'ai écrits entre l'âge de 11 et 19 ans à peu près. Ouais. Et je les ai seulement ressortis et publiés pour ma grand-mère. Qui à l'époque avait eu un accident et s'était retrouvée à l'hôpital. Et elle aimait beaucoup lire. Et voilà, du coup, ça m'avait donné envie de publier quelque chose en français parce que bon, elle arrivait à lire en anglais. Enfin, elle ne parlait pas vraiment anglais, mais elle lisait mes livres avec un dictionnaire à côté d'elle. Elle est trop mignonne. Et du coup, elle traduisait mot à mot dans les livres. Voilà, et dernièrement, donc le 5e livre, c'est le livre dont tu parlais au début de coloriage sur les émotions. Voilà, qui a été publié l'année dernière. Et là, je suis en train de bosser sur 2 autres livres, un roman et un récit autobiographique sur la santé mentale et en particulier le trouble de la personnalité borderline, dont je sais qu'on va parler un peu plus tard.
Exact, exact. On en parle juste après. Pour revenir à Where to Next, c'est du coup, tu l'as écrit en quelle année ? Et c'est une période, en fait, ça va de ton enfance, ça relate ton enfance jusqu'à ta vie d'adulte, finalement. C'est un peu un cheminement, on te suit au travers de différentes anecdotes. Et c'est super intéressant parce qu'on se plonge vraiment dans ton quotidien. Et on voit à quel point, tu es une voyageuse en herbe dès le départ, quoi. Et puis après, tu te mets à vouloir vraiment voyager dans le monde entier. À qui est destiné ce type d'ouvrage ? Enfin, à qui tu voudrais l'adresser en priorité à la base ?
Where to Next, je l'ai écrit en 2018, quand je suis arrivée en Australie. En fait, j'ai vécu en Chine pendant 2 ans et après, j'ai tout plaqué pour retrouver mon copain de l'époque qui est maintenant mon mari. C'est une histoire qui finit bien. Je l'ai écrit en 2018 quand je venais d'arriver en Australie. J'avais vécu en Chine pendant 2 ans et je suis allée retrouver mon copain qui est maintenant mon mari. C'est une histoire qui finit bien. Et j'ai décidé de prendre 1 an pour suivre ma passion d'écriture et de présentatrice. Et Where to Next, c'est vraiment venu d'une impulsion de, comme tu l'as dit, de retracer mon histoire, de mon enfance, premier souvenir au moment où j'arrive en Australie, sur le thème de la recherche de son chez-soi, home en anglais.
Mm-hmm. C'est une question qui t'a toujours traversée depuis toute petite.
Ouais, totalement. Depuis toute petite, j'avais ce sentiment de ne pas appartenir où j'étais. Je disais souvent à mes parents, mais de toute façon, mais j'ai été adoptée, où est-ce que vous m'avez trouvée, etc. Donc, il y avait vraiment un sentiment que j'étais pas au bon endroit, en fait. Enfin, c'était l'explication la plus logique à cette époque-là, en fait. Mm-hmm. Je comprenais pas exactement ce qui me rendait différente, mais je me disais dans ma tête que peut-être qu'il y a un endroit dans le monde, en fait, où je vais arriver et je vais pouvoir vraiment me poser et me sentir bien et me sentir chez moi, avec vraiment ce sens fondamental de pouvoir être moi-même et de me sentir la bienvenue dans qui je suis et dans l'expression de cette individualité pleine.
Et on te suit alors dans tes voyages, tes différents voyages, tes expériences aussi. Tu pars de chez tes parents, tu vas faire tes études, tu vas avoir des expériences professionnelles à Londres, en Chine. Et à chaque fois, on te voit revenir aussi, parfois, chez tes parents. Comment ça... C'était quoi ton sentiment quand tu revenais comme ça chez tes parents ? Enfin, tu le décris hein, dans ton livre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, justement ?
C'est un sentiment paradoxal parce que le retour à cette origine ou à cet endroit où j'ai grandi, d'un côté, c'est cette sensation de racine. Je suis... chez moi. Et d'un autre côté, c'est ce paradoxe avec le fait de je me sens pas pleinement moi-même, ou en tout cas pas pleinement en mesure d'être moi-même dans cet endroit. Ça a été très difficile pour moi d'accepter que c'était possible d'aimer éperdument et en même temps de détester quelque part, c'est un mot très fort, mais à un même endroit, en fait, d'avoir une expérience complètement contradictoire. Et puis, c'est toujours difficile. Hein,
c'était en Normandie à chaque fois, dans tes jeunes années.
J'ai grandi à Louviers. C'est une ville entre Rouen et Évreux, en Normandie. Et mes parents sont dans le processus de déménager, de partir après 35 ans dans cette ville. Donc, grand changement qui chamboule encore toute cette relation avec cet endroit. Et en fait, quelque part, l'endroit, il n'a rien à voir avec rien. C'est-à-dire que Louviers, c'est une petite ville de 25 000 habitants. Enfin, voilà, c'est neutre en soi. C'est un lieu. C'est après toutes les histoires et les ressentis, les émotions qu'on attache à chaque lieu dans lequel on vit, dans lequel on va, etc.
Et on comprend aussi que tu te définis un peu comme une citoyenne du monde hein, qui appartient un peu au monde entier. Tu me dis, hein, si je me trompe, reprends-moi, n'hésite pas. Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi par rapport à ce récit de voyage, c'est quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué de ces différents voyages ? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup voyagé, même avec tes parents, tu voyageais beaucoup, hein, tu parles beaucoup de tes family trips. C'est super intéressant hein, parce qu'on te suit aussi dans ce cheminement. Quel endroit, finalement, du monde t'a le plus marqué? J'imagine que c'est difficile.
C'est une question. C'est très difficile à répondre à cette question. Donc, c'est une question qui est très difficile à... c'est très difficile de répondre à cette question. Là, je viens d'arriver à 70 pays. Donc, j'ai visité 70 pays du monde. Donc, bon, il en reste beaucoup, hein. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est difficile de comparer tous ces différents pays. Dans chaque pays, il y a des choses exceptionnelles à voir, à découvrir, des cultures, des personnes à rencontrer. Et dans chaque pays, bah, il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des choses qui peuvent nous choquer, nous perturber, etc. Les endroits qui m'ont particulièrement marqué, clairement, quand j'ai vécu dans un certain endroit, bah, ça me marque parce que bah, j'y suis pendant plus longtemps et donc j'apprends énormément, différentes leçons. Je vais vraiment en dessous, dans les profondeurs d'une culture. Donc, je dirais la Norvège, ça m'a déjà énormément marqué parce que c'était ma première expérience vraiment de vie à l'étranger. J'avais 18 ans quand je suis arrivée, j'étais vraiment jeune.
Et tu es restée combien de temps là-bas ?
Un an.
Un an ? Ok.
Ouais, je suis restée un an, j'ai fait mon échange Erasmus, le programme Erasmus dans le cadre de mes études en Norvège. Et j'ai fait mes études là-bas, j'ai aussi bossé comme serveuse. C'était mon premier petit boulot, donc c'était vraiment énormément d'étapes de vie, quoi, de grandir dans un pays étranger et je me suis sentie extrêmement bien. J'avais mes deux meilleures amies de l'époque, mon ex-copain du coup, et c'était vraiment une espèce de bulle d'évolution, d'apprentissage et plein de moments de bonheur en fait.
Ouais.
Et en même temps, tout en disant ça, j'admets aussi que je ne pourrais jamais revivre en Norvège, j'y fais beaucoup de
Ouais. Dans d'autres pays comme ça, on te suit même dans tes colocations, ensuite tes mésaventures et c'est intéressant, c'est vrai que ça fait des anecdotes à raconter après. Est-ce qu'on pourrait voir un peu ensemble ton recueil de poésie, Pensée d'ailleurs, le poème international, est-ce que tu pourrais nous en faire une petite lecture s'il te plaît ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un poème qui est à la fois dans Where et dans Pensée d'ailleurs, c'est le seul qui est dans les deux.
Ouais.
Parce que dès le départ, je l'ai écrit dans les deux langues. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu souhaites que je le lise en français ou les deux ?
Bah, allez, les deux, pour nos auditeurs bilingues.
International. Quand j'étais jeune et bohème, j'aimais écrire des poèmes. Des mois et des années ont passé, les mots se sont envolés. De deux langues maîtrisées à un tout mélangé. Elles m'ont laissé perdu, famille et amis confus. Français, qu'écrire et que dire. Perdre ma langue maternelle, certains me disent bilingue, d'autres un peu dingue. En résumé, international est ce que je suis, hier, demain et aujourd'hui. When I was young and free, I loved writing poetry. As the years went by, words wave goodbye. The two languages I spoke became something bespoke. They left me totally bemused, family and friends confused. English? What to write? Is that right? Losing my mother tongue, some call me bilingual, others say bilingual. In summary, international is what defines me and who I'll forever be.
Merci, Solène. Trop bien. Et c'est vrai aussi que dans Where to Next, on apprend après que, enfin, tu fais un voyage à Melbourne, on apprend aussi que tu as décidé de préparer un semi-marathon. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot là-dessus ? Parce que c'est vrai que c'est une anecdote très, très sympa aussi à la fin du livre.
Ouais, quand j'étais enfant, à 12 ans, j'ai eu un accident de snowboard et je me suis abîmée le genou. Et ça, c'est une blessure qui m'a suivie et qui continue de me suivre donc, tout le reste de ma vie. Et donc, j'ai plus pu courir. J'ai réessayé de courir, j'en parle dans Where to Next, quand j'étais au Royaume-Uni et je me suis re-blessée au genou. Et donc, j'ai décidé au fil de l'eau que bah, si je ne peux pas courir, je vais marcher. Et ça m'amène quand j'arrive à Melbourne à me dire bah, je vais me fixer un nouveau challenge et je vais marcher un semi-marathon. Donc, le semi-marathon de Melbourne, c'est une course, donc tout le monde court, sauf moi. Moi, je marche. C'était absolument exceptionnel comme moment, surtout quand j'arrive dans le stade, le Melbourne Cricket Ground, qui est un énorme stade de cricket au centre, au cœur de la ville. Et là, il y a des centaines de personnes en fait, qui crient à l'arrivée. Et ce moment, mais les pleurs et tout qui lâchent, et de me dire, c'est une énorme leçon de vie pour moi, en fait. Oui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parfois, ça arrive physiquement. Notre corps, il a certaines réponses à des moments où, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Mais s'il y a une alternative, je la trouverai et je continuerai à l'explorer. Et c'est pas dans le livre, ça, mais après, je marche même un marathon complet à Canberra.
Wow.
Un an plus tard, en 7h14, je fais le marathon de Canberra.
Incroyable.
Et ça, le marathon de Canberra à travers les parcs avec les kangourous et tout, c'est juste exceptionnel.
Ouais, j'imagine. Ça doit être incroyable. Ouais. On va faire une petite pause. On va écouter Home de Passenger et on se retrouve juste après.
They say home is where the heart is. But my heart is wild and free. So am I homeless? Or just heartless? Did I start this? Did it start me? They say fear is for the brave. For cowards never staring in the eye. So am I fearless to be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many winding roads, so many miles to go.
De retour sur Radio Primitive avec Solène. Alors Solène, en 2018, tu crées Be Beyond Borders. Qu'est-ce que c'est ?
Alors Be Beyond Borders, c'est le nom de mon organisation, ma société. Ça commence comme un blog qui partagent des récits de personnes qui se sont expatriées ou qui ont grandi à travers différentes cultures, etc. Et mon idée à la base, c'est comment est-ce qu'on peut connecter les êtres humains au travers, au-delà des frontières, à travers des histoires, des récits, des partages d'expériences. Ça commence comme ça. Ça évolue dans l'organisation sous laquelle je publie mes livres. Et puis, ça continue à évoluer. Et là, boum, le Covid. Et tout s'effondre quelque part pour moi, puisque ma société, mon aventure, c'était sur briser les frontières physiques. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, il y a d'autres types de frontières, du style les stéréotypes, les stigmas, les discriminations. Et tout ça, c'est des barrières plutôt mentales, conceptuelles, culturelles que Beyond Borders peut aussi contribuer à faire évoluer. Et donc, de ce fait-là, Beyond Borders évolue en tant qu'aventure, en tant que société. Et aujourd'hui, c'est ma société sous laquelle je travaille en tant que consultante, coach et créative, en particulier sur des sujets de diversité et d'inclusion, de neurodiversité, de santé mentale, et d'innovation, culture et leadership.
Et d'ailleurs, en 2023, tu es citée parmi les 133 femmes qui changent le monde. Alors, je traduis, c'est 133 women who changed the world and top 50 most influential neurodivergent women in the UK. Comment tu l'as reçue, en fait? C'est incroyable, cette distinction.
Tu me fais rougir. Ouais, c'est totalement incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est des personnes qui m'ont nominée pour le travail que je fais dans le cadre dont je viens de parler juste avant. Et ça, c'était vraiment exceptionnel parce que je crois, enfin, même si fondamentalement, bien sûr, mon objectif, c'est d'être une agent du changement, qu'il y ait des lauriers ou pas, c'est pas l'objectif. Et néanmoins, on va pas se cacher que forcément, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur, ça donne envie de continuer, en fait. Mmh. Parce qu'il y a des grands moments de doute quand on est sur un chemin comme ça, qui n'est pas tout tracé, c'est pas une carrière traditionnelle, c'est pas une vie traditionnelle, je sais pas quelle est la prochaine étape. Il y a plein de moments où je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça rime à quoi? Pourquoi? Est-ce que vraiment il y a un impact dans tout ça? Et est-ce qu'il est positif? Et toutes ces questions. Et donc, de recevoir ces nominations hyper généreuses. Et voilà, ça me donne vraiment, en fait, cette impulsion, cette envie de continuer à mettre toute mon énergie dans ce que je fais.
Et donc, dans Beyond Borders, il y a aussi un lien fait avec le trouble borderline. À quel moment c'est venu, justement, dans ta vie, en fait? À quel moment le trouble borderline s'est présenté à toi
Et ça, c'est le truc trop waouh, quoi. Parce que j'ai appelé mon aventure Beyond Borders en 2018. Et à l'époque, j'avais aucune idée que quelques années plus tard, donc en avril 2021, j'allais être diagnostiqué du trouble de la personnalité borderline. Je te dis, la vie des fois, intéressant.
Est-ce une coïncidence? Parce que appeler ça comme ça, avec un jeu, ça fait un jeu de mots directement, quoi.
C'est bluffant.
Ouais.
C'est vraiment bluffant. Ouais, ça m'a pas échappé. Je t'assure, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais là. Mais attends deux secondes, parce que j'avais déjà mon site internet, j'avais déjà tout ça, tu vois.
Ouais. Et tu pensais en parler avant ou pas du tout, finalement? Tu pensais parler quand même de santé mentale, j'imagine, mais non.
J'ai vraiment commencé purement dans la partie aller au-delà des frontières d'un point de vue culturel, en
fait. Ok, d'accord. Vraiment le multiculturalisme, d'accord.
Mmh. Ouais. C'était pas du tout des sujets qui m'a... C'est un sujet qui m'intéressait, la santé mentale. Ça m'intéresse depuis des années et des années sur un point de vue très personnel. Mais ayant grandi dans le contexte culturel français par rapport à ça, j'avais vraiment intégré cette notion que la santé mentale, c'est quelque chose de très personnel. Et on ne mélange pas le personnel et le professionnel. Et on ne parle pas de personnel sur la place publique. Et donc, même au moment où je reçois mon diagnostic de trouble de la personnalité borderline en avril 2021, même si je fais la connexion avec mon nom d'organisation, je décide de ne pas en parler. Et pendant un an, Je me concentre sur mon parcours thérapeutique et je ne parle pas publiquement de mon diagnostic du tout, en fait, par principalement peur du stigma et oui, surtout dans le cadre du monde professionnel.
Et donc, en 2022, tu commences à en parler.
Ouais, en 2022.
Comment c'est venu le déclic ?
Le déclic vient parce que dans le cadre de Beyond Borders, je lance un talk show qui s'appelle The Inclusion Conversation, où je fais intervenir différents invités sur des sujets de diversité et d'inclusion. Et mai, c'est le mois du trouble de la personnalité borderline, voilà, pour en parler et vraiment aider à faire avancer la conversation sur la santé mentale en général, mais avec cette concentration sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est mai 2022. Et donc, je suis tout à fait consciente que c'est le cas et j'ai envie de trouver des invités qui viennent en parler. Parce que c'est un sujet qui m'importe sur un plan personnel, mais moi, personnellement, je n'ai pas envie d'en parler moi-même pour l'instant.
Ouais.
Et je contacte plusieurs personnes, des associations, des organisations, et pas de réponse ou bien non, j'ai trop peur du stigma, je ne me sens pas prêt à en parler, etc. Et donc là, je me dis, mais ce n'est pas possible, il faut en parler. Mais du coup, si personne ne veut en parler, mince, je vais devoir en parler. Et donc, je propose à ma thérapeute d'être mon invitée dans le cadre de cet épisode d'en parler avec moi. Mmh. Et donc, je lui pose à elle des questions plus sur le trouble, qu'est-ce que c'est, comment on est diagnostiqué, etc. Et elle me renvoie les questions sur plus quelle a été ton expérience personnelle, etc. Mmh. Et waouh, c'est un épisode, j'en ai des frissons rien que d'en parler. C'est un tournant énorme pour moi.
C'est mémorable.
Ouais, c'est hyper vulnérable.
Ouais. Et puis, du coup, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'on pourrait rappeler justement quels sont les symptômes du trouble borderline ? Comment ça se présente et comment on est diagnostiqué justement ?
Ouais, bien sûr. Donc, le trouble de la personnalité borderline, c'est un trouble psychique duquel on est diagnostiqué sur la base de 9 symptômes. Et si on en a 5 sur les 9, on reçoit ce diagnostic. Donc, dans les 9 symptômes, je ne vais pas tous les citer, ça prendrait sûrement trop de temps, mais pour en citer quelques-uns, il y a une peur de l'abandon, de la perception de l'abandon, il y a un trouble du sens de l'identité, qui suis-je, à quoi rime ma vie, il y a des pensées suicidaires, il y a les relations interpersonnelles instables, difficultés avec relations amicales, relations amoureuses, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de symptômes qui ont un impact très important sur notre vie quotidienne, personnelle, professionnelle, voilà, tous les aspects de la vie. Et souvent, quand on entend les symptômes, les gens disent « mais moi aussi, j'ai peur qu'on m'abandonne, mais moi aussi, des fois, j'ai du mal avec… » Mais moi aussi. Et en fait, oui, totalement. C'est pas une expérience complètement inhumaine. C'est totalement une expérience humaine. C'est juste imaginer l'expérience humaine à volume 100%, et intensité extrême, en fait, sur ces aspects-là des 9 symptômes. Et pour finir sur un autre chiffre intéressant, c'est que comme on est diagnostiqué si on a 5 sur les 9 symptômes, ça veut dire qu'il y a 256 différentes combinaisons possibles du trouble de la personnalité borderline. Donc, une énorme diversité au sein des personnes diagnostiquées. Donc, voilà, faire très attention à ne pas faire des généralités du style « parce que Solène, elle a dit ça sur la radio.
» Ouais, bien sûr.
Du coup, je considère que tous les gens concernés par le TPB ont cette même expérience. Nous, on est tous différents et bien sûr, ça intersecte avec d'autres aspects comme on en a parlé avant. Ça peut être le fait d'être une femme, le fait d'être française, le fait de plein d'autres choses. Donc, il y a une intersection. Voilà. Donc, toujours faire attention à bien poser des questions à l'individu, s'intéresser à chaque personne et ne pas faire de conclusions hâtives.
Oui, bien sûr. Et pour revenir à ton expérience personnelle, je reviens sur le voyage. C'est vrai que quand on a ce trouble-là et qu'on voyage beaucoup, est-ce que ça implique certains symptômes qui ressortent plus ou, je veux dire, comment toi, tu l'as géré personnellement
Ouais, c'est un peu une question de poule et d'œuf. C'est hyper difficile à répondre dans un sens parce que moi, j'ai l'impression que le voyage, ça m'a à la fois permis de me construire et de me construire mon identité, et en même temps, ça a rendu encore plus difficile de solidifier cette identité. Et comme avec le trouble, on a ce sens de ne pas savoir qui je suis, à quoi je sers, pourquoi je suis là, et le fait de bouger tout le temps, c'est vrai que ça n'aide pas forcément à avoir cette solidification et cette fondation intérieure de concept de son être, en fait. Donc ça a été difficile, je dirais. Après, le voyage, il est aussi hyper positif pour moi dans le sens du mouvement. Le mouvement permanent, en fait, le mouvement m'apaise. Et puis, je pense qu'on y reviendra après, mais j'ai aussi un diagnostic de TDAH. Et donc, j'ai ce besoin permanent de nouveautés, etc. Donc, le voyage remplit vraiment ça. Et si on prend peut-être l'autre côté pour un autre exemple, pour donner de la nuance, le symptôme autour de l'impulsivité. C'est vrai que, quand on a un trouble de la personnalité borderline, on a tendance à être très impulsif. Moi, un aspect impulsif, ça a été justement de tout plaquer et de me réinventer à chaque fois. Donc, en particulier dans le livre « Where to Next », il y a cette anecdote qui souvent est retenue par beaucoup de gens, qui est que j'ai un entretien d'embauche pour un poste en Chine et que j'accepte ce poste sans même en avoir parlé à ma famille, sans même en avoir parlé avec mon copain avec qui je vis et tout ça. Et en fait, je leur annonce durant un autre voyage en Crète sur le port dans le cadre d'un voyage professionnel. Et ils sont là, ils me rendent visite pour le week-end et je leur dis, je pars en Chine dans 3 mois. Ah oui, pour y vivre pendant 2 ans. Bye.
Après, tu étais majeure, vaccinée, tu avais tes choix, et tes propres choix.
Et oui, et voilà, et c'est là où, en fait, quelle est la différence et la nuance entre spontanéité et impulsivité. Et impulsivité, c'est en général quand il y a des conséquences. Et là, j'ai eu la chance que mon voyage en Chine a été plutôt positif. Donc, on pourrait dire, finalement, c'était plutôt de la spontanéité, pas de l'impulsivité. Mais sur le moment, quand même, il y a cette grosse impulsion, ce manque de réflexion, en fait.
Ouais.
Et après, j'ai eu un peu de chance qui fait que ça n'a pas été un désastre, mais ça aurait pu. J'ai pas trop réfléchi, quoi.
Et pour faire le lien justement avec tes engagements en neurodiversité, tu parlais du TDAH. Qu'est-ce que ça implique au quotidien justement un trouble comme le TDAH?
Oui, donc le TDAH, c'est une forme de neurodivergence. Donc c'est une différence neurodéveloppementale donc au niveau de la façon dont le cerveau est structuré et de la façon dont il fonctionne. Ça influe sur tout ce qui est concentration, impulsivité à nouveau. Avec ces extrêmes, par exemple, au niveau de la concentration, entre incapacité à se concentrer sur les choses qui ne nous intéressent pas, mais de l'autre côté, la capacité à avoir ce qu'on appelle l'hyperfocus sur les choses qui nous passionnent. Ça fait aussi qu'on a beaucoup de mal avec l'ennui, par exemple. Y a 3 types de TDAH, ça c'est, je pense, important à savoir aussi. Il y a le TDAH donc sur la partie inattentive, donc voilà cette difficulté avec la concentration. Après, il y a le TDAH avec le H, donc la partie hyperactive, donc difficulté à rester en place, que ce soit physiquement, mais aussi émotionnellement. Ça peut être dans la tête, ça peut être plein de pensées, donc l'aspect cognitif, donc avec cette hyperactivité. Et après, il y a le TDAH combiné, donc ça c'est les deux, c'est le jackpot. Moi, j'ai eu le jackpot du TDAH, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH combiné. Et dans l'aspect positif, parce que dans tout ça, il y a toujours des forces et des difficultés. Dans l'aspect positif, il y a cette créativité débordante, plein d'idées. Moi, j'ai toujours plein d'idées. Et on me l'a beaucoup dit dans ma carrière, on m'a beaucoup dit, mais Solène, en fait, c'est une vraie boîte à idées. Tu as un problème, tu y vas et Solène, elle va te filer genre 1000 solutions. Limite, si tu veux moins de solutions, va pas voir Solène, va voir quelqu'un.
En quoi ça consiste là clairement aujourd'hui tes engagements pour pour valoriser la neurodiversité? Est-ce qu'on peut justement en parler un peu à nos auditeurs et auditrices? Déjà, qu'est-ce que la neurodiversité et comment aujourd'hui au quotidien ça a un impact dans ta vie en fait?
Donc la neurodiversité, c'est la variabilité infinie des différents types de cognitions, donc de façon de penser, de façon de ressentir, de façon d'être. Donc ça, c'est tout le monde en fait. La neurodiversité, ça inclut tout le monde. Après, on a la neurodivergence ou neuroatypie. Donc ça, c'est les personnes qui vont être, avoir un fonctionnement neurologique qui est différent de la majorité de la population. Et ça va amener à des diagnostics style dont on a parlé, TDAH, mais aussi autisme, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, Tourette, etc. Moi, mon engagement là-dessus, en fait, c'est vraiment de valoriser cette neurodiversité et la neurodivergence au sein de la neurodiversité pour ce qu'elle peut apporter à notre société. Parce qu'avec différentes façons de penser, avec différentes façons de ressentir, avec différentes façons de se comporter, eh ben, on va avoir la possibilité d'apporter beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, de connecter des choses qui n'ont jamais été connectées avant ou de les connecter différemment, de ressentir des choses d'une façon différente ou des choses d'une profondeur différente ou même d'anticiper certains ressentis avec une intuition particulièrement prononcée. Et moi, je trouve ça génial, je trouve ça fascinant. Et voilà, j'ai envie que ce soit valorisé à la fois dans le monde professionnel et à la fois dans nos vies personnelles. Et donc, j'ai trois types d'engagement là-dessus. Un, c'est en tant que consultante, donc consultante auprès d'organisations dans le milieu plutôt corporate ou dans le milieu gouvernemental, sur des sujets de comment on rend le monde du travail plus accessible et plus inclusif auprès de personnes neurodivergentes et aussi de personnes concernées par des troubles psychiques. Donc, ça va passer par la revue de politique d'entreprise, de processus, l'organisation d'ateliers, etc. Ensuite, deuxième volet, c'est sur la partie coaching. Donc, j'accompagne des individus concernés par la neurodivergence et ou des troubles psychiques sur l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels d'évolution, d'expérience, de tout ce qui les anime. Et puis après, sur le plan créatif, plein de projets, comme on a déjà parlé, à la fois sur les livres, l'écriture et aussi... j'ai réalisé mon premier court-métrage l'année dernière et puis je peins aussi. J'ai eu une œuvre qui a été exposée à New York sur ces sujets d'inclusion. Et c'est au-delà de l'inclusion. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'appréciation des différences, la valorisation des différences. Mmh. C'est que c'est super, en fait, et que ça ajoute quelque chose. C'est ça, ma passion. C'est ça qui m'anime.
Trop bien. Et tu fais partie aussi d'une communauté, le BPD Bunch, qui est justement ce qui sensibilise aux troubles borderline sur les réseaux sociaux. En quoi ça consiste alors? Depuis quand tu fais ça déjà et puis en quoi ça consiste?
Oui, déjà, pour rebondir sur l'aspect communauté, moi, ça a été un grand tournant après mon diagnostic, quand j'ai commencé à en parler. Donc, comme on l'a dit, c'était déjà un an après mon diagnostic. J'ai enfin découvert, en fait, une communauté d'autres personnes concernées. Et ça a été le cas à la fois sur la partie trouble de la personnalité borderline et sur la partie TDAH, où en fait, le fait de rencontrer d'autres personnes qui pensent de manière similaire, qui ont un ressenti similaire, ça change tout, on se sent moins seul. Et là, on recoupe avec le sujet de Where to Next. Je réalise qu'en fait, mon chez moi, c'est pas forcément un endroit dans ce monde. Mmh. En fait, c'est plutôt un sens de communauté, d'appartenance qui peut être vécu en ligne, comme tu l'as dit, à travers des communautés virtuelles. Je suis aujourd'hui impliquée avec plein d'organisations, donc par exemple sur l'aspect consulting avec des organisations comme Authentique en France ou Even Break au UK, et puis sur l'aspect santé mentale sur le BPD Bunch. Donc le BPD Bunch, c'est un podcast qui a été créé par Zani et qui fait intervenir 17 personnes à travers le monde qui sont concernées par le trouble de la personnalité borderline, pour justement parler de comment on ressent les choses, comment on vit les choses, pour inviter plus de compréhension et d'inclusion par rapport à ce trouble qui est extrêmement stigmatisé, qui est le trouble aujourd'hui le plus stigmatisé. Enfin, en tout cas, un des troubles les plus stigmatisés. C'est difficile de faire une comparaison là-dessus. Mais beaucoup de chercheurs en la matière parlent de cette surstigmatisation du trouble qui n'aide pas du tout au diagnostic, à l'accès aux soins. Et donc, nous, on veut changer ça. Et on offre aussi une perspective sur ce dont j'ai parlé précédemment, sur la diversité des profils, des expériences qui sont liées à ce diagnostic, puisqu'on est basé aux quatre coins du monde et que chacun a des différences qui font que on apporte notre point de vue individuel. Et ouais, c'est super. On
sous
en
la
a
forme
la
de capsules, des petites capsules vidéo, soit sur YouTube ou sur Instagram, avec des reels hyper cool et hyper intéressant. Quoi. On en apprend énormément. On va faire une petite pause et on se rejoint juste après. On écoute Scares to Your Beautiful de Alessia Cara. À tout de suite. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor.
Hey, I'm Jess Carmel.
It's Francesca.
I'm Miles.
Myrian. Marnie Florence.
Siobhan. Joanna.
Christina. Josh.
It's Kylie.
Miranda.
It's Jawed.
Grace. It's James.
It's Ashley.
See the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know.
And then there was me.
And a lot of people aren't afraid to give their opinions, whether they're hurtful or not.
People would laugh and stare.
People watching you eat and making little comments.
As I grew up thinking that I had to look a certain way.
I never thought I was as pretty as the other girls.
Be proud of them. I shouldn't be trying to hide it.
De retour sur Radio Primitive avec Solène Anglaret. Alors Solène, moi j'aimerais parler avec toi pour finir cet entretien de la créativité. Tu te présentes comme créative et tu parles régulièrement hein, de l'importance de la créativité. Quels sont les liens à faire avec ce dont on parlait juste avant, entre santé mentale, le voyage, la créativité? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui au quotidien et qu'est-ce qui te rend créative, toi ?
Il y a tellement de liens à faire entre tous ces sujets. Le voyage, pour moi, est une énorme source d'inspiration. Ça permet de voir les choses différemment, de faire des expériences uniques. Et puis, plus on voyage, plus on connecte différentes choses qui n'ont peut-être pas été connectées ou qu'on n'aurait pas connectées si on était resté chez soi. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres façons de voyager que d'aller physiquement quelque part. Hein. On peut voyager même depuis chez soi par cette ouverture à l'autre, à différentes idées. Et donc ça, pour moi, ça remplit d'idées et donc de créativité. La connexion avec la neurodiversité est intéressante aussi parce qu'encore une fois, avoir différentes façons de penser et d'avoir cette expérience du monde, ces différents ressentis, et ben encore une fois, ça va amener à la créativité parce que ben, en pensant différemment, ça ouvre plein de champs des possibles. Et puis, la connexion avec la santé mentale, oui, elle est là aussi. Je pense qu'il y a ces différentes façons de penser par des personnes concernées par différents diagnostics. En même temps, je dirais au-delà, pour moi, la créativité, elle a été essentielle à aller mieux et avant d'aller mieux, à exprimer cette souffrance qu'il y avait en moi. En fait, j'ai commencé à écrire parce que j'avais pas les mots, je savais pas en parler, je pouvais pas en parler, j'étais bloquée par rapport à ça et l'écriture ça a été pour moi un refuge, en particulier quand j'ai été concernée par donc le harcèlement scolaire et que j'ai été invalidée par les adultes autour de moi. Et ben l'écriture, en particulier la poésie, c'est là où je commence à écrire des poèmes dès l'âge de 7 ans. C'était ça, c'était mon refuge parce que dans la poésie c'est magique, on peut mettre à la fois des mots et en même temps, on peut cacher du sens de l'expression des émotions entre les lignes ou dans la façon dont la beauté des lignes, les trous, les blancs, les points, tout, en fait. Et ça, il y a souvent que nous qui savons en fait, ce qu'on a caché dans le poème. Et c'est un peu pareil pour la peinture aussi, pour moi. Je fais beaucoup de peintures abstraites. Et c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est une façon d'exprimer ce que soit je n'arrive pas à exprimer, soit j'ai peur de la façon dont peut-être ça va être reçu, etc. Donc, en fait, je transmets l'émotion sans forcément la rendre évidente.
Donc, au-delà du côté un peu thérapeutique, c'est vraiment le besoin de s'exprimer, en fait, qui en résulte, en fait.
Ouais. Et c'est les deux, tu as raison de dire ça aussi, hein, l'aspect thérapeutique, rien que le fait de créer quelque chose sans s'attacher au produit fini, mais vraiment purement en lâchant, en fait, dans cette expérience créative, ça fait un bien thérapeutique énorme. Et parfois, ça peut amener à des réalisations. Sur le chemin de mon établissement, j'ai fait de la thérapie par l'art, et c'est vrai que ça amène aussi à des réalisations de ce qui se passe à l'intérieur, qu'on n'a pas forcément réussi à exprimer en mots, mais qui va ressortir à travers les couleurs qu'on choisit, les formes qu'on choisit pour s'exprimer.
Et donc, tu as commencé par la poésie un peu, de ce qu'on voit dans le livre. Et on te suit aussi dans tes rêves. Tu fais des to-do list de tes rêves, de ce dont tu as, enfin ce que tu as envie de faire de ta vie, hein, finalement. Et parmi dans cette liste-là, il y avait aussi l'ambition de devenir journaliste, présentatrice télé.
Oui, ça, c'était mon grand rêve depuis que j'étais toute petite, quand j'avais 10 ans. J'ai montré la télé du doigt, je regardais avec mes parents, c'était Claire Chazal qui présentait les informations. Et j'ai dit, un jour, je serai elle. Et depuis, ça ne m'a jamais vraiment quittée, en fait. J'aime énormément partager des idées, échanger. Et je trouve que cet aspect présentatrice, cet aspect poser les questions, faire en fait dans ton rôle d'aujourd'hui, tu vois, j'aime beaucoup ce rôle, et à la fois moi ça me permet d'apprendre énormément et à la fois ça permet de connecter des idées et de partager des choses avec une audience, et je trouve ça magique en fait. Et pour l'instant, j'ai pas encore atteint ce rêve de journaliste, j'ai fait un petit peu autre chose avec mon parcours de vie jusqu'ici. Mais on ne sait jamais, je suis encore ici, donc tout peut se passer. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons de s'exprimer et d'échanger. Et aujourd'hui, par exemple, je fais du théâtre d'impro et même du théâtre tout court. Je vais être sur scène dans quelques semaines dans le cadre d'une pièce de théâtre ici à Dubaï. Et donc voilà, une autre façon d'exprimer tout ça. C'est une pièce sur les émotions en plus, donc c'est vraiment tout est connecté. Et donc j'ai trouvé d'autres façons de connecter à ce rêve sans le lâcher. Parce que, et là j'ai une petite anecdote là-dessus très rapide, c'est que dans le cadre de ma thérapie, j'ai fait une thérapie comportementale dialectique qui m'a énormément aidée par rapport au rétablissement du trouble de la personnalité borderline. Et dans le cadre de cette thérapie, au tout début, ma thérapeute m'a demandé, est-ce que tu veux bien qu'on se fixe des objectifs pour l'année à venir, parce que c'est une thérapie qui dure à peu près un an. Et on a fait ça, et à la fin de l'année, elle m'a dit, on va revoir tes objectifs et voir où tu en es. Et je lui ai dit, non, j'ai pas envie et tout, parce que ma peur, c'est que tu vas me dire que j'ai pas atteint mon objectif d'être présentatrice et d'avoir peut-être mon propre show, ou d'être sur scène, ou de faire quelque chose comme ça. Et là, elle m'a dit, mais Solène, c'est absolument pas dans la liste des objectifs. Et donc, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, et ça me donne encore des frissons d'en parler, que j'avais abandonné ce rêve. J'avais abandonné tous mes rêves. Au moment où vraiment le trou noir, où j'ai vraiment atteint pour moi le sous-sol du fond du trou, j'avais abandonné tous ces rêves et je m'en étais même pas rendu compte. Il a fallu que je commence à me rétablir pour me rendre compte qu'en fait, lâcher mes rêves, abandonner mes rêves, c'est là où je perds espoir. Et c'est là où en fait, sans l'espoir, du coup, pourquoi vivre ? Alors aujourd'hui, je m'autorise plus ça. Je me dis, je suis encore là, donc il y a de l'espoir. Et si ça n'arrive pas, c'est OK aussi, en fait.
Et moi, je me demandais justement par rapport à ce rêve de devenir journaliste, présentatrice télé, est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi par rapport à tes créations récentes tu as quand même fait un court-métrage qui a été primé récemment, Still Here. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Still Here. Comment tu traduirais ?
Pour moi, c'est toujours là.
Toujours là. Toujours là, point d'interrogation. Et de quoi parle du coup ce court-métrage ? On en a un peu parlé juste avant, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails et puis quelques informations justement sur tes récentes réussites par rapport à ce court-métrage ?
Oui, bien sûr. C'est un court-métrage qui me tient énormément à cœur. Ça connecte tous les sujets dont on a parlé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se pose la question si elle a suffisamment de raisons pour vivre, pour rester ici, pour être toujours là. Des amis, des connaissances, des gens dans son entourage lui laissent des messages vocaux en répondant à la question « qu'est-ce qui fait que leur vie mérite d'être vécue ?» dans l'espoir de l'aider, elle, à se rappeler de sa propre réponse. Et donc, pour moi, c'est vraiment une invitation à tous les gens qui nous écoutent, à tous les gens qui nous entourent, de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qui fait que notre vie, ta vie, ma vie mérite d'être vécue ? Comment est-ce qu'on... Quel sens on donne à notre vie, en fait ? Et c'est juste de méditer sur ça, parce qu'on donne tous un sens à notre vie. Et se rappeler de ce sens, se rappeler de ce qui nous anime, de ce qui nous plaît, de ce qui nous rend heureux ou même malheureux, ce qui nous fait nous sentir en vie, ce qui fait battre notre cœur, et bien ça, c'est un moment magique et ça nous permet d'avancer en pleine conscience, même si c'est juste dans le cadre de ce petit moment de notre journée ou de ce petit épisode de notre vie. Et voilà un petit peu l'objet de ce film. Et pour moi, c'était vraiment aussi une façon de parler de suicide, de parler de tous ceux qui sont concernés par ces moments où justement on se sent perdu, sans espoir, et où on a du mal à répondre à cette question. Et donc, je voulais créer une vidéo avec un message qu'on pourrait écouter dans ces moments-là, en fait. Et la raison, enfin, la motivation première, c'est que quand moi, j'étais vraiment au fin fond du trou et que je me posais cette question et que ma réponse, c'était plutôt non et que j'avais plus envie d'être ici, eh ben, souvent, j'allais courir à la salle de sport et je regardais une vidéo de Oprah Winfrey sur ses speeches de motivation les plus écoutés, blablabla. Et je regardais ça en boucle et je me disais, mais c'est hyper intéressant, mais ça parle plutôt à des gens qui ont déjà envie d'être ici et qui ont juste envie de rendre leur vie meilleure. Mmh. Mais ça parle pas fondamentalement aux gens comme moi aujourd'hui, à ce moment-là de ma vie, qui ont même pas envie d'être ici, en fait. Et donc, j'avais envie de créer cette vidéo qui parlerait à ceux qui étaient, qui se retrouvent comme moi et comme ça m'arrive encore de temps en temps, en train de me dire, mais pourquoi rester là ?
Et par la suite aussi, tu as remporté un prix pour ce court-métrage ?
Tu vois comme quoi j'ai du mal de parler des prix. À chaque fois, il faut que tu me le rappelles. T'es la bonne Solène. Parlez-vous.
Quand même.
Oui, c'est super. Ouais, on a reçu un prix du public dans le cadre d'un festival de films en ligne. Et après ça, on a reçu 3 autres prix Donc maintenant, ça fait 4 sélections pour différents festivals de films. Et le prochain pour lequel on a été sélectionné, ça se passe à Calcutta, en Inde. C'est une collaboration entre Dubaï et Calcutta. Et je suis invitée, donc je vais aller en Inde pour ce festival. Wow. Ils attendent à peu près 250 personnes. Et donc, je vais pouvoir partager un petit peu mon aventure sur le sujet du film, etc. Et en plus, ce qui est absolument exceptionnel, c'est que toutes les personnes qui ont donné voix et donc donné vie à ce film sont concernées par le trouble borderline. La plupart font partie du BPD Bunch, à l'exception d'une personne que j'ai rencontrée en Inde. Anyway, une de ces voix, elle appartient à Madhurima, qui est basée à Calcutta, que j'ai jamais rencontrée en personne et que, waouh, par cette chance incroyable du destin, de la vie, de la coïncidence, de je ne sais quoi, fait que je vais pouvoir la rencontrer en personne et qu'elle va aussi pouvoir venir avec moi au festival. Donc, ouais, trop hâte. C'est en février, fin février que ça se passe.
Trop bien. Bah, félicitations pour tout ça. Et, et pour terminer notre entretien d'aujourd'hui, j'aurais aimé aussi parler de tes créations musicales et slam. Tu écris aussi des poésies chantées finalement. On va en écouter un petit extrait tout de suite et on se retrouve juste après. Ça s'appelle Thrill Seeker de Excessive.
Shame will come later, predictably, but this is effective momentarily, and it seems to happen automatically. Impulsively filling myself up means bringing myself down, but what can I say? I'm a thrill seeker.
De retour sur Radio Primitive avec Solène Anglaré. Solène, merci en tout cas pour cet entretien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais finalement, enfin peut-être pas forcément conseiller, mais qu'est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs et auditrices qui recherchent un peu un sens d'appartenance, par exemple, ou ont envie de... Voilà, ne savent pas vraiment vers quoi s'orienter dans la vie. C'est vrai qu'il y a sur Where to Next, l'illustration, c'est une boussole. Hein. Enfin, je ne sais pas si on pourra le mettre sur le site, mais c'est vraiment le côté orientation, sens. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement par rapport à cette question du sens d'appartenance?
Le premier élément de réponse, ce serait quelque chose que j'ai seulement réalisé quand j'ai fini d'écrire Where to Next, justement, qui est qu'est-ce qu'un sens d'appartenance pour moi, en fait, et en moi? Comment est-ce que je peux créer en moi mon chez-moi? C'est-à-dire que, comme ça, un peu à l'image de l'escargot, moi, c'est ça qui me vient, avec sa maison sur son dos. Et ben, ça voudrait dire quoi d'avoir ma maison sur mon dos? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente bien en moi, pour que je me sente chez moi en moi? Ça, ce serait le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, ce serait expérimenter, expérimentation. On change, on est en évolution permanente. Quelque chose qui a pu marcher, une définition de sens d'appartenance, une connexion à un lieu particulier peut changer, évoluer, disparaître et donc être dans cette curiosité et cette envie de tester différentes choses, de voir ce qui nous parle à un moment ou à un autre. Et la troisième chose, c'est vraiment cette connexion avec d'autres personnes, à la fois des personnes qui nous ressemblent et à la fois des personnes qui sont fondamentalement différentes de nous, en fait. Et de chercher le type de conversation qui nous anime et qui nous donne cette sensation d'appartenance. Parce que ce type de conversation, il peut avoir lieu avec des personnes qui nous ressemblent ou pas. Et finalement, c'est ça qui va, je pense... Enfin, moi, je sais, par exemple, je veux dire, pour donner un exemple, personnel, peut-être qu'il va mieux illustrer ce concept. Je sais que les conversations en profondeur sur des sujets dont on a parlé aujourd'hui, neurodiversité, santé mentale, voyage, philosophique, etc., ça m'anime, ça me remplit, ça me fait sentir ce sens d'être accepté, d'être entendu, d'être vu. Et donc, je cherche ces conversations, à la fois avec des personnes qui me ressemblent et des personnes qui ne me ressemblent pas.
Super. Bah, écoute, merci. On va retrouver après sur le site Henri cet entretien et tout ce qu'on a pu citer, que ce soit les musiques que tu avais proposées aujourd'hui à écouter, votre création aussi musicale avec Xani avec le BPD Bunch, puis les références aussi de ton livre de coloriage que j'invite tout le monde j'invite vraiment tout le monde à le télécharger parce qu'il est vraiment génial. Il permet de se retrouver un peu avec ses émotions, de faire le point, c'est vraiment sympa. Et on se quitte sur une petite musique. Anxiety de Kat Burns. Merci beaucoup, Solène.
Merci beaucoup à toi, Lorraine.
À bientôt.
I think we need to talk. and get some things off my chest. You've always been in control, claiming that you know what's best. But since I've gotten older, I kind of wanna know what life's like minus you. Life's like minus you. I got invited to a party, it's next week, and they've asked me if I could come along. I've always wondered what I'm like when it's just me. What if I let them see me in a beanie and a white tee and oversized jeans? Would they recognize me? Without my anxiety. Without my anxiety. Just hear me out. Don't think I'm not scared of this too. I know it's always been me and you, and I'm not kicking you out.
I'm not kicking you out.
But since I've gotten older,